Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dans le journalisme, il est plus qu'une référence, il est l'idéal à atteindre.
C'est moi.
Presque Stéphane, mais non, presque. Mais lui a donné son nom à la plus haute distinction dans la profession. Un homme intrépide, prêt à tout pour faire éclater la vérité au grand jour. Stéphane Bern nous raconte celui qui a eu le courage de pénétrer là où personne n'avait encore jamais osé s'aventurer, le journaliste infiltré Albert Londres.
Dans un asile pour femmes aliénées tenu par des nonnes, Albert Londres, 41 ans, découvre, horrifié, une pièce appelée la salle de pitié. À l'intérieur, l'innommable. Pourtant, le journaliste en fera le thème d'un de ses articles. Voilà ce que les lecteurs du journal Le Petit Parisien découvrent en mai 1925. Juchés sur une estrade, 11 chaises est accrochées au mur. 11 femmes ficelées sur 11 chaises. Cela pleurait, cela hurlait, leurs bustes se balançaient de droite à gauche. On aurait dit ces poupées mécaniques que les ventriloques amènent sur la scène des music-halls. Les cheveux ne tenaient plus, les nez coulaient, la bave huilait les mentons. Des étangs se formaient sous les sièges. Dans quel musée préhistorique et animé étais-je tombé? En entreprenant cette enquête sur les asiles et autres établissements psychiatriques, Albert Londres ne s'imaginait pas tomber nez à nez avec des êtres aussi déshumanisés. Je parle des fous, bien sûr, mais pas seulement. Dans ses 12 articles, Albert Londres accable aussi les médecins, plus bourreaux que héros, plus geôliers qu'infirmiers. Cette vérité glaçante est la marque de fabrique du reporter. Albert Londres n'a jamais imaginé exercer un autre métier que celui de journaliste. Albert voit le jour en Auvergne, à Vichy, le 1er novembre 1884. Dans cette ville thermale qui a notamment accueilli la marquise de Sévigné ou Napoléon III, Albert Londres aurait pu suivre la voie de son père et devenir chaudronnier. Mais il n'en a cure et se jette dans le grand bain du journalisme en 1906. Direction Paris. L'avenir appartient aux hommes qui se lèvent tôt, alors Albert débute au Matin, un quotidien tiré à près d'un million d'exemplaires. Sa carrière décolle véritablement en 1914. La Première Guerre mondiale éclate, lui est réformé. Son arme, c'est sa plume acérée. Son style tranche avec celui de ses confrères. C'est à lui qu'on doit notamment le récit poignant sur le bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands. Elle est debout, mais pente lente. Elle est ouverte, il n'y a plus de porte. Nous pénétrons en retardant le pas. Nous sommes déjà au milieu de la grande nef quand nous nous apercevons avoir le chapeau sur la tête. L'instinct qui fait qu'on se découvre au seuil de toute église n'a pas parlé. Nous ne rentrions plus dans une église. À 30 ans, Albert vide sa passion, le journalisme. Reporter de guerre, il est envoyé aux quatre coins de la France, puis en Belgique. Il intègre rapidement de nouvelles rédactions comme le Petit Journal ou encore l'Excelsior. Pendant 10 ans, il éclaire de son talent les lecteurs en noircissant de son encre les pages des journaux. Visions orientales, dans la Russie des soviets, la Chine en folie, ses articles sont des mines d'informations. Mais Albert Londres veut aller plus loin. Progressivement, ce fringant jeune homme à la barbe noire et à la mèche de cheveux rebelles s'intéresse à des sujets d'études méconnus, délicats, voire dangereux pour quiconque s'en approche de trop près. Parmi ces infiltrations qui ont valu à Albert Londres le surnom de prince des reporters, sa série d'articles sur le bagne de Guyane. Nous sommes en 1923. Albert Londres n'a pas encore 40 ans et débarque comme journaliste dans ce qu'on appelle Cayenne, un lieu où sont envoyés les délinquants pour y purger leur peine de travaux forcés. Ce qu'il y découvre lui glace le sang. Je n'avais encore jamais vu d'homme en cage par cinquantaine. Ils se préparaient pour leur nuit. Cela grouillait dans le local. De 5h du soir à 5h du matin, ils sont libres dans leur cage. Ces articles, publiés entre août et septembre 1923, bousculent les lecteurs et dérangent le pouvoir en place. Car face à ces conditions de détention insoutenables, Albert Londres n'atténue en rien ses propos, bien au contraire. L'injustice sociale, la corruption, l'inhumanité, rien ni personne n'est épargné. Son article du 24 août 1923 évoque par exemple cette cour des miracles où des malades sont entassés dans deux camps. 450 chiens dans le premier, 450 dans le second. À dire vrai, ce ne sont pas des chiens, ce sont des hommes. Mais ces hommes ne sont plus que des animaux galeux, morveux, pelés, anxieux et abandonnés. Manchots, unijambistes, hergneux, aveugles, tuberculeux, paralytiques, tout cela boue ensemble dans ces deux infernaux chaudrons de sorcières. En 1947, près de 25 ans après l'apparition de ces articles, le bagne est fermé définitivement. Albert Londres en a désormais la certitude. Sa mission est de se mettre au service des invisibles, ceux que l'on n'entend pas, qui sont censurés et qui pourtant souffrent. Il va ainsi réussir à suivre incognito le parcours de ces Françaises enrôlées vers l'Argentine pour devenir prostituées. Son reportage, Le chemin de Buenos Aires, est salué par la critique, conspué par les Argentins. Le reporter se distingue également par son enquête sur le Tour de France. Dans les forçats de la route, il obtient le scoop. Trois coureurs cyclistes déballent devant lui la cocaïne et d'autres produits qui leur permettent de tenir la cadence de ce tour infernal. Albert Londres, lui, carbure aux révélations choc. Son prochain sujet est l'un des tabous les plus ancrés dans la société française, la folie. Mais infiltrer un asile va s'avérer être particulièrement kafkaïen. Les directeurs de ces maisons d'aliénés sont tout sauf coopératifs. À chaque fois la même excuse. La loi de 1838 qui contient une clause et non des moindres, le secret professionnel. Autrement dit, les directeurs de ces asiles, une fois les fous placés chez eux, ont tous les droits sur eux, y compris celui de les couper du monde. Oh, un ministre accepte bien de l'aider. Je ferai quelque chose pour vous si vous faites quelque chose pour moi. Soumettez vos articles à la censure. Il est fou, aurait pu rétorquer Albert Londres. Jamais vaincu, le journaliste prend une décision radicale. Devenir fou à son tour pour espérer infiltrer cet univers si bien protégé. Il tente de se faire interner à l'infirmerie de la préfecture de police sur l'île de la Cité. Malheureusement, il fait fou, chou blanc. Albert Londres fixe ensuite son dévolu sur Sainte-Anne, toujours à Paris. C'est alors le seul des 80 établissements de l'Hexagone avec un service ouvert. Chacun peut donc s'y présenter. Le reporter révèle dans l'un de ses articles son expérience dans la salle d'attente. Une femme qui vient visiter sa mère lui confie son petit garçon. Quand elle réapparaît désemparée, elle lui demande « Vous venez aussi pour une parente ?» Il répond « Non, madame, je viens pour moi. » Elle m'arrache à l'enfant. « Je me sentis soudain dangereux pour la société », expliquera-t-il ensuite. Enfin, Albert Londres aurait-il réussi à convaincre une personne de sa folie ? Mais persuadera-t-il avec le même succès les médecins qui s'apprêtent à le recevoir en consultation ? Encore une fois, c'est un échec. Alors il change son fusil d'épaule et décide de tenter sa chance en province. Tour à tour, dentiste, gardien interne, il parvient, quoique rarement, à franchir les portes de ses établissements. Et ce qu'il découvre dans ce Tour de France des asiles est encore plus déroutant que le scoop des cyclistes dopés. Ici, ils sont plongés dans des bains glacés entre 4 et 6 heures d'affilée, enfermés dans une baignoire avec juste la tête hors de l'eau. Là, on remplace leur lit par de la paille en forme de cercueil, aussitôt mort, aussitôt enterré. Ces articles font office d'électrochoc auprès du public. Ce sont des coups de scalpel littéraires dans la France très lisse des années 20. De cette enquête prolifique, Albert Londres en tirera même un livre et une conclusion. Notre devoir n'est pas de nous débarrasser du fou, mais de débarrasser le fou de la folie, si nous commencions. Albert Londres meurt en 1932 à l'âge de 47 ans, dans l'incendie du paquebot qui le ramenait d'une enquête en Chine. Depuis 1933, le prix Albert Londres couronne chaque année les meilleurs grands reporters francophones. Seule exigence autre que le talent, avoir moins de 40 ans. Ça ne vous laisse donc plus que quelques mois pour candidater, je crois, Mathieu.
Mais je ne candidate même pas.
Mais allez, allez-y, on y croit, nous.